Bonjour, nous sommes le lundi 23 avril 2018, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Tous les 15 jours, la relève, c'est une demi-heure avec un jeune talentueux, forcément talentueux. Notre invité du jour n'habite pas au 101 Avenue Martin, il ne roule pas en bicyclette bleue et pourtant il est l'heureux, enfin j'espère qu'il est heureux, lauréat du prix Régine Desforges. Notre invité du jour est donc écrivain. Maïr Guven, bonjour, vous êtes écrivain donc et vous avez publié à l'automne dernier, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû se rencontrer si j'avais répondu à un mail de votre attaché de presse auquel je n'ai jamais répondu, comme ça vous saurez tout aujourd'hui. Votre éditeur s'appelle Philippe Ray et votre roman s'appelle Grand Frère.
C'est ça, exactement.
Jusqu'ici j'ai tout bon ?
Oui, tout bon, parfait.
Alors après cette introduction subtile qui évoque deux titres de Régine Desforges, comme tout le monde ne sait peut-être plus qui était Régine Desforges malheureusement, c'est un écrivain à qui l'on doit une saga qui s'appelle La bicyclette bleue,
ouais.
Et qui a aussi laissé une œuvre érotique, c'est une des premières femmes qui a écrit des romans érotiques je crois.
C'est l'une des premières éditrices en France.
Et qui, qui publie de la littérature érotique.
Oui, et donc ce qui est intéressant c'est qu'elle publie de la littérature érotique par goût esthétique, mais aussi par revendication politique ou en tout cas sociétale. Et c'est ça qui est intéressant dans son parcours.
Avant d'avoir son prix, vous l'aviez lu ?
J'avais lu La bicyclette bleue et j'avais lu Camillo. Donc j'avais pas tout
lu. Je vous rassure, on ne fait pas un test, je ne vais pas vous poser des questions sur l'œuvre de Régine Desforges. Moi, je vais dire franchement, je n'ai jamais lu, mais c'est quelqu'un dont on connaît quand on est un peu plus âgé que vous. Donc vous aviez lu exprès parce que vous avez dit que vous étiez au prix ?
Non, pas du tout. La bicyclette bleue parce que j'avais d'abord vu la série à la télé, parce que je suis né dans les années 80, et donc j'avais envie de...
C'est la série avec Laetitia Casta.
Exactement. Et puis Camillo, parce qu'on m'avait offert ce bouquin à une époque où j'étais un peu plus jeune et j'étais passionné par Cuba, etc. Et Camillo raconte l'histoire de Camillo Cienfuegos, donc il y avait... dans la Révolution cubaine, il y a... comment il s'appelle Che Guevara.
Oui,
il y a Fidel Castro et son frère, et donc il y a un troisième révolutionnaire qui est Camillo Cienfuegos, qui lui est un espèce de cœur tendre, etc., qui est mort dans un accident d'avion, donc qui a disparu. Et c'est un livre sur ce troisième personnage qui fait découvrir une autre facette de la révolution cubaine.
Alors malgré tout, ça représente quelque chose pour vous, le prix Régine Desforges ?
Bah oui, oui.
À cause justement de ce que vous disiez avant, là, le côté politique de cette femme
En tout
engagée.
Cas, en fait, il est, le prix en tant que tel, il a été créé par ses enfants. Ses enfants, je pense, sont revendicatifs de ce qu'a été Régine et de ce qu'elle a représenté. Et puis, quand vous regardez le jury, c'est quand même... J'ai été consacré par mes pères, hein, donc voilà.
Vous vouliez écrire un roman depuis longtemps ?
En tout cas, je réfléchissais à la création artistique depuis 3-4 ans, dans le domaine de la littérature. J'ai démarré 2-3 projets qui n'aboutissaient pas, et puis finalement... J'ai jeté la canne à pêche dans la bonne rivière et puis j'ai pu aller au bout du projet.
Vous parlez de canne à pêche par hasard ou... Parce que ça me fait penser à l'introduction du nom de la rose d'Umberto Eco, où il parle de l'écrivain comme de quelqu'un qui est assis au bord d'un fleuve et qui regarde ce qui passe.
Non, c'est complètement par hasard.
C'était pas une allusion
mais
à
Eco. Souvent, en fait, des fois quand on me demande des conseils, comment on fait pour écrire et tout, comment ça vient, etc., je leur dis qu'il faut chercher. Il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'il faut être en chasse, vous êtes dans le métro, vous voyez une personne qui éternue, vous regardez son visage, etc., les réactions autour. C'est là que vous chopez des éléments, vous prenez des notes, puis à un moment vous les réinsérez dans un texte qui n'ont parfois rien à voir avec la scène. Mais...
Et là justement, au-delà de la canne à pêche et de la métaphore, c'est quoi qui fait qu'on part ? C'est qu'on tient la bonne histoire, on trouve la bonne voie, le bon ton ?
Je dirais que en fait, tu attrapes des étincelles. Et après, au fur et à mesure d'avoir des étincelles, tu mets du bois dans ta cheminée et tu balances des étincelles, ça crée du feu.
C'est comme un feu, c'est au moment où ça
exactement.
Prend.
Exactement, il faut que ça prenne, ça vient en soi. Ensuite, il faut savoir l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut croire dans son histoire, il faut l'aimer, il faut que cette histoire elle vous embrasse. Donc moi, je considère que quand un sujet, je tourne autour pendant plus d'une semaine... Je tiens quelque chose, quoi. Et donc je poursuis.
Vous aviez fait d'autres débuts avant ? Vous aviez commencé d'autres histoires ?
Ouais, j'ai commencé... En fait, c'est un manuscrit qui a été refusé, déjà. Philippe Rem l'a refusé en avril. C'était l'histoire n'était pas construite de la même manière. C'était une histoire de deux colocataires. Et puis en fait, j'avais une bonne base, donc j'ai reparti à partir de là.
Et donc, c'est à partir de là que vous avez inventé les deux frères, parce que votre livre s'appelle Grand Frère, mais en fait, ça pourrait être deux frères.
Exactement.
Pourquoi vous avez choisi Grand Frère ?
Pourquoi j'ai choisi Grand Frère ?
C'est peut-être un choix d'éditeur, d'ailleurs,
non,
je me suis demandé.
Oui, au début, je voulais l'appeler. Ça s'appelait Au nom du frère. Et Au nom du frère, c'était déjà pris par un roman américain publié il y a deux ans en France. Donc on a mis de côté. Ensuite, je lui ai dit, bon, pourquoi on ne l'appellerait pas Petit Frère ? Petit Frère, ça me plaisait bien, parce que c'était le nom de la chanson d'Ayam, ça représente quelque chose pour ma génération. Et puis Petit Frère, c'est aussi le titre d'un roman d'Éric Zemmour, bon, pour qui je n'ai pas de grande passion. Voilà.
C'est pas votre odeur de chien ?
Non, pas trop. Et puis ensuite, il y avait deux titres. Il y avait Grand Frère et il y avait Pour une affaire vous concernant. Et donc on a longtemps tourné autour, l'éditeur voulait Grand Frère, moi je voulais Pour une affaire vous concernant, parce que Pour une affaire vous concernant, il y avait un double sens, c'est et ce qu'on reçoit sur une convocation à la police.
Qui reçoit un des deux personnages.
Exactement, et en même temps ça interpelle le lecteur, ça lui dit Pour une affaire vous concernant, on parle des années 2010, de la jeunesse, etc. Et puis finalement, à force de prendre des avis à gauche à droite, on a tranché pour Grand Frère, parce qu'on s'est dit que ce frère, il était grand. Et que c'était pas qu'un grand frère, c'était un frère qui avait une sorte de grandeur. Voilà.
Alors, je voudrais revenir à votre parcours, parce que vous avez aussi fait des études de gestion, mais j'ai aussi vu que vous étiez coureur cycliste.
J'ai fait du vélo, ouais.
Ah, mais beaucoup.
J'ai fait du vélo.
Vous avez fait le Tour de France, si j'ai pas bien lu votre fiche.
Oui, j'ai fait ça avec Eric Fotorino. C'est comme ça que j'ai rencontré. Ça, d'ailleurs.
Vous avez fait quoi, le Tour de France un jour
Tour
avant
de France, Tour de, ça s'appelle Tour de Fête. C'était un événement sportif dans lequel on s'est lancé dans une aventure où on faisait toutes les étapes des pros, mais un jour avant eux, mais dans une, avec une équipe de 25 jeunes issus de la diversité géographique, je tiens à le préciser.
C'est quoi la diversité géographique? C'est toute la région de France.
En fait, aujourd'hui, souvent, quand on dit la diversité, on met dans un groupe quelqu'un qui a la peau noire et quelqu'un qui a la peau. On va dire café au lait, puis on dit coucou la diversité. Et en fait, en réalité, la diversité de la France, c'est aussi la Corse, la Meurthe-et-Moselle. Et moi, j'étais le seul coureur qui travaillait à la Défense à l'époque.
Ah d'accord, voilà. Je pense que vous étiez le seul qui venait de Nantes.
Et le seul qui ne faisait pas de vélo en club, parce que moi, je faisais du vélo un petit peu comme ça, des randos. Et puis j'allais au boulot en vélo, donc je n'avais pas les cuisses des autres coureurs.
Ah oui, donc vous n'avez jamais voulu être coureur cycliste?
Non, pas du tout.
Mais quelle idée de faire ça quand on n'a pas l'entraînement?
On se lance à l'aventure, quoi. C'est sympa.
C'est pareil, vous cherchiez.
Mais bon, j'ai toujours eu un bon niveau en sport. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket à haut niveau. Je courais déjà le marathon, etc., avant de me lancer dans cette histoire, quoi. Mais il a fallu convertir toute cette énergie vers deux pédales.
Alors, on va passer des deux pédales aux deux frères. Ouais. L'image est vraiment assez foireuse. C'était des colocataires au départ, donc vous n'étiez pas du tout dans les grands mythes anciens des deux frères, Abel et Cain.
Non, il y a un personnage de K dans le livre. Et donc, en fait, celui qui est chauffeur de Uber était colocataire avec K. Et K qui l'avait aidé un peu à le faire passer du statut de petite frappe à chauffeur de Uber, et donc qui avait une emprise sur lui. Et puis c'était un texte qui était écrit à la troisième personne, qui était moins sombre.
Là, il y a donc le choix, il y a les deux frères, peut-être un peu qu'on commence à raconter l'histoire, qu'on rentre dedans. Donc c'est deux frères, il y en a un qui est chauffeur Uber, l'autre qui a réussi, qui est infirmier, mais on sent que les deux ont un mal-être, ce sont des fils d'immigrés, leur père est syrien, leur mère est bretonne, mais est morte il y a un certain temps. Et ils vont suivre deux chemins différents qui, l'un et l'autre, vont les mener là où ils ne devraient peut-être pas aller. En tout cas, comme dirait si on suit le droit chemin, c'est ça?
Oui, en tout cas.
Qu'est-ce que vous vouliez raconter? L'histoire de deux frères d'abord? L'histoire du monde d'aujourd'hui?
Non, c'était deux frères. Parce qu'en fait, mon histoire, j'aurais pu la raconter il y a 50 ans, dans un autre contexte. Donc c'était avant tout une histoire familiale. C'était déjà ça. Et puis après, j'y applique le contexte. C'est-à-dire le contexte, c'est les années 2010. C'est l'immigration, c'est la banlieue, c'est la précarité, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est l'embrigadement politique, etc. Donc ensuite, vous mettez à réfléchir à tout ça. Et puis vous avez les outils du journaliste. Je ne suis pas journaliste, mais je travaille dans un journal, donc je vois comment on bosse. Donc c'est les interviews, c'est l'enquête, c'est le questionnement, c'est la lecture, etc. Et donc quand vous avez la matière, c'est un peu comme quand vous avez un garde-manger dans une cuisine. Après, quand vous voulez faire une recette, vous sortez tout.
C'est comme Top Chef, quoi. Vous aviez des ingrédients, ouais, et il fallait que vous fassiez...
Top romancier, ouais, exactement.
Je ne sais pas si après on va faire un concours du meilleur écrivain. Moi, j'aime beaucoup le personnage du père dans votre livre, qu'on voyait un peu en cours de route, qui est très présent, j'ai trouvé, au début, qu'on perd un peu au cours de route. Et j'aime beaucoup la manière dont vous le faites parler, parce que... Moi, j'ai pas du tout de grand-père syrien. Mon grand-père n'était pas syrien, mais il était immigré aussi. Je trouve que vous réinventez magnifiquement sa langue. Et vous avez cette phrase magnifique où vous dites, vous écrivez donc, la langue de l'immigré s'intègre toujours beaucoup moins bien que lui.
Ouais, non, mais c'est vrai. L'immigré, il respecte les lois, il travaille, il paye ses impôts, etc.
Mais et sa langue le trahit toujours.
Et souvent, surtout en France, je blâme pas nos concitoyens, mes concitoyens. C'est que on a éduqué dans le bien parler. Vous voyez, on adore corriger les gens comme ça, dire « Oh non, on ne dit pas à vélo, on dit en vélo, je ne sais pas quoi. Enfin, » bon. Même moi, je ne connais pas la règle, je suis obligé à chaque fois de vérifier dans le dictionnaire. Et si vous voulez, c'est hyper stigmatisant, ça. Quand on vous le fait en public, devant des gens, etc., c'est très stigmatisant. Du coup, je pense que les immigrés en souffrent beaucoup. Hier, je discutais avec une jeune femme d'origine portugaise qui me disait que longtemps, quand elle disait « en conséquence » ou « par conséquent » à son père, il ne comprenait pas.
Ah oui, mais elle avait un langage trop soutenu.
Oui, et puis donc, il a mis 10 ans à lui dire, écoute, tu sais, il y a des mots que je ne comprends pas quand tu parles.
Voilà. Donc, il y a toute une partie donc, avec ce père syrien, cette famille, donc ces deux frères. On revient encore à ces deux frères. Ouais. Il y en a un qui est chauffeur de VTC, parce que je n'ai pas envie de faire de publicité pour la marque qui l'emploie, qui a déjà eu la chance qu'on fasse un nom, un nom pour désigner ce métier. Ouais. Pourquoi ce métier et...
En fait, il y avait un grand paradoxe dans ce métier, si vous voulez. Moi, j'entendais beaucoup de gens autour de moi dire « Ah, c'est génial, ce nouveau service, tu sors ton téléphone, t'appuies, quelqu'un vient te chercher, t'emmène, etc. » Bon, oui, sur le papier, c'est excellent. Hein, ça. C'est génial, tu mets tes poubelles dans la rue, tous les matins, il y a des gens qui les prennent, qui les emmènent, etc. Qui s'est questionné sur la réalité du métier ? Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est quand on vous dit « On va résoudre le chômage des jeunes de banlieue » ou dans les banlieues, il y a plus de 40% de chômage chez les jeunes. Pas Uber, mais tout ça, c'est... Ce sont des carabistouilles pour singer notre président de la République. C'est pas avec 25 000 emplois qu'on va rajouter le chômage des jeunes de milliers, voire de millions de personnes. Donc du coup, j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter la réalité. D'une, on peut pas, avec un petit peu de maquillage, dire bah, « Regardez, cette société résout le chômage. » Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de s'interroger. C'est quoi ce métier ? Quel est ce métier ?
Vous aviez l'impression peut-être que les gens autour de vous l'utilisaient comme un service avec leur portable, ils ne voyaient pas le chauffeur et vous aviez envie de savoir qui était le chauffeur.
Et puis c'est la bonne conscience, quoi. Enfin, ces salauds de taxi qui ne sont pas sympas, etc. Bah, tiens, on va les avoir maintenant parce qu'il y a un service américain qui est super avec des types. Puis regardez, en fait, ces métèques qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre société. On a réussi à leur faire mettre un costume par l'appât du gain et du libéralisme et tout. Je dis ça d'autant plus que je suis plutôt libéral d'un point de vue philosophique, mais je trouvais que tout ça est un paradoxe exploitable dans une matière romanesque. Voilà.
Oui, et puis alors, ce qu'on découvre, c'est que, alors je ne sais pas si c'est des lieux véritables, même si vous avez transposé, mais il y a tout un univers avec des lieux où les gens se retrouvent, il y a ce café en Saint-Denis.
Bah, le café existe, hein, il s'appelle le 129, il est à Saint-Denis, mais il y a pas mal d'endroits comme ça. Et donc ça vous raconte un écosystème. Et un écosystème que j'ai envie de faire découvrir à des plus jeunes. Et je suis très content parce qu'il y a un très bon accueil des jeunes et puis il y a des plus âgés.
Thank you.
Vous aviez 7 ans quand est sortie cette chanson, Maier Guven, c'est Vénus as a Boy et c'est l'immense Björk.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
On est donc toujours avec Maier Guven. D'ailleurs, est-ce que je prononce bien votre nom ?
Oui, ouais, là, ça c'est va, pas ça mal. Va.
Et on parle de votre premier roman, Grand Frère, paru aux éditions Philippe Ray, roman qui vient d'être primé du prix Régine Desforges.
Et puis, il est en finale du Goncourt du premier roman.
Oui. C'est... Et vous étiez sur l'Interallié aussi.
J'étais non sur la sélection Médicis.
Médicis, pardon.
Voilà.
Et il était en finale. D'être sélectionné.
Premier roman, je vais pas me plaindre. Hein.
Juste avant, vous disiez que il y avait un bon accueil chez les jeunes. C'est-à-dire, vous faites la tournée des écoles avec.
Ouais, en fait, notamment des lycées. Je suis allé dans 6 lycées pour le moment et j'ai un accueil assez enthousiasmant en fait quand j'entends que les jeunes ne lisent plus. Bah, en tout cas, c'est un bouquin qui les intéresse. Là, je parle d'adolescents, hein, de lycéens, mais ils se retrouvent dans le langage, en fait. Et comme on
oui, je parce pense qu'il y a un travail sur le style.
Voilà, dans les cours de français, on leur autorise à écrire qu'une langue très classique. Là, ils ont un ouvrage de littérature au sens noble, sélectionné dans des prix, etc. Mais où on est très proche du langage parlé, avec beaucoup d'insultes aussi, en tout cas, et un langage qu'ils connaissent hein, pour beaucoup d'entre eux. Du coup, ça les bouscule un peu dans ce qu'ils peuvent voir d'une forme esthétique. Et d'ailleurs, je lui dis, mais ça vous dérange pas quand c'est dans un film ? Ils disent non. Je dis, ben vous voyez, écrivez ce que vous voulez. Si vous voulez écrire con, vous écrivez con. Si vous voulez écrire pute, vous écrivez pute. Et si vous voulez avoir 20 sur 20, vous écoutez ce que la prof dit.
Et justement, par rapport à l'écriture, ça fait aussi partie du projet d'inventer une nouvelle langue, en tout cas de l'hybrider.
En fait, du coup, on a parlé dans la première partie de l'interview du fond de l'histoire. Deux frères, un chauffeur, un infirmier qui part en Syrie. Bon, il fallait donner une forme. Et je voulais que la forme épouse le fond. Et c'est-à-dire que si j'avais créé un personnage de chauffeur VTC qui parlait au passé simple, imparfait, qui est la forme classique en littérature, ça sonne vide, ça marche pas. Donc du coup, il faut...
Vous avez essayé de le faire
Oui, j'ai testé, oui.
Et ça marchait pas
Non, ça marchait pas. Enfin, c'est-à-dire que si, ça marchait. Mais pour moi, ça sonnait faux. Et je considère en tant qu'auteur que je suis mon premier lecteur. Donc je dois écrire un texte qui me plaît. Je suis pas là pour... Bon, je fais pas du marketing quand j'écris un bouquin. C'est de l'art. Du coup, j'ai commencé à écrire comme on parlait. Et ensuite, ça marchait pas très bien
non plus.
C'est
pas non plus vraiment comme on parlait. C'est une transposition littéraire d'aller à l'en parler.
Et donc, du coup,
je pense que personne ne parle comme finalement dans votre livre. Au fond.
Non, non.
Du ça coup, retranscrit la langue
parlée. Exactement. Donc j'ai voulu inventer un truc qui est ce que j'appelle le créole du béton, le parler jeune, etc. Transposer à la littérature pour faire découvrir aussi ce langage à des personnes plus éloignées de ces environnements, notamment du fait de l'âge.
Alors moi, je voulais un truc très dingue, je ne sais pas si c'est dingue, moi je trouve ça dingue. Je ne suis pas jeune, je ne viens pas de ces milieux-là. Vous utilisez beaucoup d'argot et on comprend tout. Moi, j'ai très peu utilisé le glossaire. Ça m'a beaucoup surpris.
Ouais,
alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez travaillé pour que les mots arrivent à des moments où on puisse les comprendre sans lire.
Alors en fait, non, si, là-dessus, il y a un travail. C'est-à-dire que parfois, certains mots, on les comprend par le sens de la phrase.
Ouais.
Donc du coup, il y a un peu...
C'est le contexte qui fait qu'on comprend le mot d'argot. Ouais.
Oui, voilà. Quand on a parlé de seins et de fesses avant pour désigner une personne, et qu'ensuite on désigne cette personne comme Zouze, on comprend que c'est une fille. Quoi. Donc du coup...
j'ai trouvé ça très fort parce qu'il y a un glossaire et je me suis plusieurs fois demandé mais à quoi il sert parce qu'on comprend...
Bon, mais vous devez être particulièrement ouvert d'esprit parce que, et notamment, sur Internet, il y a certaines analyses ou critiques où les gens disent après le premier chapitre, on a moins besoin du glossaire, mais quand même.
Ah oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'en s'y plongeant et en étant dans cette langue, on s'y fait petit à petit.
Sûrement, ouais, sûrement. En tout cas, c'est une langue très logique. Hein. Enfin, d'ailleurs, elle est étudiée à l'université. J'ai vu un chercheur de Paris 8 qui appelle ça le FCC. C'est le français courant des cités. Et donc, il étudie, il a des thèses là-dessus, des articles de recherche. C'est intéressant parce que moi, c'est tout à fait empirique. J'ai pris ça comme ça venait.
C'était qui les écrivains que vous admiriez ?
Moi, dans l'ordre, il y a eu Amin Maalouf. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai suivi longtemps, qui m'a notamment transmis la tolérance hein, par ses différents écrits, mais aussi l'ouverture au monde, et notamment l'ouverture à la culture arabe, parce que Bah, j'ai grandi dans un monde où le rapport à la culture arabe, c'était le Maghreb, grosso modo, en France.
Alors que vous venez du Mashrek, si j'ai bien compris.
Pas du tout. Moi, je suis né à Nantes. Mes parents viennent de Turquie. Ouais. C'est pas le Mashrek, la Turquie. C'est l'Anatolie.
Autant pour moi.
Et non, j'ai dit l'ouverture, parce que moi, mon rapport, vous voyez, c'est vos voisins, l'école, etc. C'est quoi, guerre d'Algérie, décolonisation, le couscous. Donc, c'était ça. Et Amin Maalouf, il vous ouvre à autre chose. Le départ des Arabes d'Espagne. L'arrivée au Maghreb, les grands voyages, etc. Mmh. Les croisades vues par les Arabes, etc. Puis il y a un livre qui a été très important pour moi, ça a été Les identités meurtrières, où il raconte il explique que c'est un essai, le problème du 21e siècle sera la question de l'identité. Et pour moi, qui est quelqu'un qui a trois identités, voire même quatre en lui, mon père est kurde, ma mère est turque, je suis né en France et à Nantes, maintenant je vis à Paris, donc je vis avec ces quatre identités. Je ne veux pas émettre de préférence l'une sur l'autre. Je vis avec les quatre. Et en fait, je suis au croisement des quatre, quoi. Un peu comme une couleur, quoi.
Et pour ce livre-là, vous êtes inspiré vous étiez inspiré, vous aviez en tête des modèles littéraires ?
Ouais, deux.
Moi, je pensais que vous aviez plutôt Taxi Driver, parce que ce chauffeur Uber me fait vraiment beaucoup penser à Robert De Niro.
Oui, clairement, en fait, c'est né comme ça. Hein. J'étais à la rétrospective Scorsese à la Cinémathèque. En fait, j'ai regardé que Taxi Driver, les scénarios, les scripts, comment c'était construit, les décors, etc. Et puis, mais bon, ça, je me suis dit, je vais faire un Taxi Driver d'aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai deux figures qui sont des modèles littéraires pour moi. Il y a Patrick Modiano d'un côté, le prix Nobel littérature, pour ce que j'appelle sa langue chaloupée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous emporte avec lui et vous voyez même plus où vous êtes, mais il vous emporte. Et il y a Romain Gary pour l'art du rebondissement, mais linguistique, stylistique, ouais. Que j'adore parce que je trouve que c'est une forme parfaite, etc. Et voilà.
Vous y pensiez quand vous écriviez ?
Énormément. Par exemple, La vie devant soi, ça a été un vrai modèle littéraire.
D'ailleurs, vous le citez à un moment, vous en parlez.
J'aime bien faire des clins d'œil. Quand j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo, dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les easter eggs. C'est les clins d'œil de jeu en jeu, entre eux, à des références cinématographiques. J'aime bien aussi, parce que dans les films de Tarantino, il y a toujours des clins d'œil. Donc, je voulais faire des clins d'œil. Et je reçois des petits mails comme ça de lecteurs en me disant « Ah, j'ai vu que tel passage, c'est la chanson d'IAM de 93. L'autre, ah oui, mais ça, c'était dans l'album de Lunatic. Et puis un autre, etc. Romain Gary. Bon, » voilà.
Alors, on revient aux frères. Il y a deux frères. Il y a donc le grand qui est chauffeur dans une compagnie de VTC bien connue. Puis il y a le plus jeune qui est infirmier, qui part en Syrie. Au départ pour des raisons humanitaires et qui peut-être pour d'autres... Enfin, on n'ira pas plus loin. Je vais vous demander, celui-là, pour décrire ce parcours-là, pour le rendre réaliste, vous avez fait comment ? Vous avez lu des journaux ? Vous avez interviewé des gens ?
Oui, la première chose, c'est que pour comprendre ce qui se passe en Syrie, il y a beaucoup de matière. Il suffit d'aller sur Internet. Donc j'ai utilisé les outils du journalisme. Il y a énormément de blogs, notamment tenus par des femmes qui sont parties, qui souhaitent expliquer à d'autres comment elles sont parties, les risques qu'ils ont vécu.
Elles racontent leur vie aussi sur place ?
Oui, elles racontent leur vie sur place. Donc là, il y a la partie blog et la partie écrite. Il ne faut pas oublier que ces gens sont français, donc ils sont très bavards. Ils adorent raconter, etc. Et d'ailleurs, souvent, c'est assez bien écrit. C'est assez plaisant à lire. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi des vlogs. Les vlogs, ce sont des blogs en vidéo, donc où on se filme en selfie ou pas. Et donc il y a des influenceurs, il y en a un notamment qui est assez connu, enfin qui était d'ailleurs, qui s'appelait Samir, et lui il faisait le lifestyle à Raqqa, quoi, donc comment on s'habille.
Où est-ce qu'on va manger
Regarde le dernier jogging, treillis militaire, les godasses treillis militaire, style. Où on va manger, j'ai pas trop vu, mais en tout cas les réunions, les parties de foot, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants, etc. Donc en fait, on s'imagine qu'il n'y a que des gens qui partent faire la guerre. En fait, il y a des gens qui partent dans une sorte de rêve d'utopie, de construire une société selon leurs lois de l'islam. Donc c'est assez intéressant à regarder. Hein. Ce ne sont pas que des dangereux sauvages qui veulent aller là-bas pour buter tout le monde. Il y a une recherche, il y a un truc. C'est assez touchant d'ailleurs. Hein. Enfin, moi, ça m'a poussé à réfléchir.
Ça paraît assez naïf d'ailleurs, ce que vous racontez là.
Oui, mais la naïveté.
Les Fashion Week, quoi.
Mais Régis Debray, il est parti rejoindre Che Guevara. À 12, il voulait faire une révolution au Pérou. Enfin, il fallait être un peu quand même assez naïf et toc-toc, quoi.
Vous, votre but dans ce livre, c'est de parler finalement de ceux dont la fiction parle peu.
Il y a une partie de ça, oui.
Parce qu'on dit toujours la fiction française, c'est un couple à Saint-Germain-des-Prés.
Ouais,
non, on n'est vraiment pas là-dedans, quoi. Ni dans l'histoire d'amour.
Bah, l'humanité, elle est partout. Et l'art s'intéresse à l'humanité. Ouais. Donc du coup, c'est pas une volonté, c'est que je trouvais que c'est beau, en tout cas. Et en fait, sont mes potes. Hein. Je parle de mes potes. En réalité, mes potes, c'est la banlieue, etc. C'est des gens qui parlent peu, ils expriment peu leurs émotions, leurs sentiments.
Il y a le rap, quand même.
Il n'y a que dans le rap.
C'est mais le seul rap, moment... c'est vrai que le rap est peut-être pas écouté par les gens qui lisent des livres.
Non,
c'est peut-être pas les
mêmes. Le rap est pas écouté. Mais moi, j'ai vu des gros durs, vous savez, les bras épais et tout, que ça, la gueule amochée, chialer parce que leur femme les quittait. Et ça, c'est assez touchant. Alors moi, j'ai eu du bol, c'est que les gens aiment bien se confier à moi. Je dois être une figure rassurante parce que je juge pas, j'écoute et tout. C'est pas pour rien que j'ai choisi de travailler dans un journal, je pense. J'ai des grandes oreilles, des yeux grands ouverts. Mmh. Et puis, mais donc, du coup, je voulais raconter cette humanité. Vous voyez, les types qui pleurent quand leur père décède, leur grand-mère.
Oui, là, il y a ça. Il y a voilà. Le personnage aussi de la grand-mère, qui est la grand-mère syrienne, qui va exactement. Et qui revient. J'aurais juste revenir sur la quatrième de couverture, enfin, ouais. Sur le rabbin, on vous présente comme dans tous les livres, ouais. Et vous précisez que vous êtes né sans nationalité, c'était important pour vous de dire
ouais.
Alors c'est à quoi? C'est à cause du débat sur la déchéance de nationalité?
Oui, ouais, notamment, pourquoi... ouais. En fait, vraiment, quand il y a eu le débat sur la déchéance de nationalité, moi je suis né sans nationalité parce que mes parents avaient été faits apatrides pour la Turquie, ça ne m'a pas empêché de vivre, ni eux d'ailleurs. Ensuite, on a eu la nationalité turque quand j'ai eu 10 ans. Donc avant, on avait un passeport de la Convention de Genève pour les réfugiés. Voilà. 3 ans plus tard, via le droit du sol, j'ai eu la nationalité française. Et puis, donc du coup, je la vis comme un droit, ma nationalité française. Mais nationalité française ne veut pas dire culture française, c'est autre chose. On peut être de culture française sans avoir la nationalité. Donc du coup, je voulais le préciser, parce qu'au moment de la déchéance, un gouvernement pour lequel j'avais voté, j'ai voulu envoyer à François Hollande ma carte d'identité en disant ouais. « Bah, gardez-la, j'en ai pas besoin pour vivre. » Voilà.
Et donc finalement, vous montrez aussi qu'on peut être né sans nationalité et participer de la culture française.
Oui, exactement.
Voilà, donc je rappelle que vous êtes sur la liste du concours du premier roman. Avec, alors on va citer les 3 autres quand même. Ariane de Myriam Leroy, Géographie d'un adultère d'Agnès Riva et ici de Lise Marzouk. Vous êtes le seul garçon. Bravo.
Oui, merci.
Donc c'est déjà la fin du 12e épisode de la saison 2 de La Relève. Meyer Guven, merci d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre ouvrage, donc Grand Frère, aux éditions Philippe Ray. Cette semaine, à la réalisation, il y avait Louis-Julien, Christophe à la présentation et à la préparation. Et comme on est très pressé, je vous dis à dans 15 jours tout de suite. Suddenly happened.